Chapitre 14. Le jeu de Jonchet. On ne savait plus où courir entre tous les sujets de bavardage qui fermentaient et pétillaient de toutes parts. Le village de Fontfrêche ne se souvenait pas d'une période aussi capiteuse. D'une heure à l'autre, Fanélie Chassé, disait-on, avait déménagé ses clics et ses claques au petit moulin et, pour se venger en partant, elle avait cassé tout ce qui restait de vaisselle au mestru. La petite Henriette Courtel, la boiteuse toujours embusquée derrière les rideaux blancs et les géraniums de la vieille maisonnette à arcades, avait vu passer le tombereau plein de tessons. Et Louise Duplan, qui était partout, en une demi-heure, avait fait causer Fanélie, le domestique des Mestrus et la cuisinière du Guillaume Tell. On sut que Laurent, gai comme un pinson, était allé faire un arrangement pour son père, pour lui-même et les domestiques, et que le repas leur serait servi régulièrement, jusqu'à nouvel ordre, dans une petite salle particulière dont l'entrée était sur la cour, tout à fait indépendante des entrées de l'auberge. « 3 repas d'hôtel par jour, pour 4 hommes, ils vont se ruiner !» s'exclama Madame Sébastien quand elle fut au courant. « Si Elie Mestru m'avait demandé conseil, je lui aurais organisé notre marmite suédoise dans sa cuisine. Un des hommes éplucherait, un autre ferait le feu, un autre reviendrait des champs à midi pour ouvrir la soupape, le quatrième mettrait le couvert. « Ce serait un peu compliqué, » dit son mari. « Compliqué ? Pas plus que la popote des militaires, par exemple. Si je rencontre Elie Mestru et son fils, je leur en dirai un mot. » On apprit ensuite avec intérêt que Louise Duplan, la seule femme du village qui allât en journée, venait d'être requise pour le ménage des Mestru, pour faire les chambres et soigner le linge. Cette nouvelle fut accueillie avec une vive satisfaction, car avec Louise Cloche de Butte, on était bien certain d'être informé de tout. Le lendemain du cataclysme, en rentrant d'une matinée de labourage, un peu avant midi, Laurent passa au magasin Denizet pour s'informer du prix d'un service complet de vaisselle blanche. Une minute après lui, Myriel franchissait le seuil du magasin. Du bureau de poste où elle achetait des timbres, elle avait vu Laurent. Une impulsion de curiosité, de crainte, un désir presque morbide de jouer avec une situation qu'elle savait dangereuse, lui faisait attraper en l'air les fils de l'imbroglio qu'elle avait créé à mesure qu'elle les voyait glisser devant elle et s'en mêler. Elle entra, mince et souple dans sa jaquette de laine blanche, ses cheveux blonds moussant sous le bonnet en tissu blanc des Pyrénées qui encadrait son visage, le faisant paraître rond et naïf comme celui d'un petit enfant. Elle alla jusqu'au comptoir d'un air négligent, regardant autour d'elle. Madame Denizet montrait à Laurent des assiettes, une soupière, des plats de divers modèles. « Je suis à vous tout à l'heure, mademoiselle Myriel !» fit la marchande avec ce sourire sucré qu'on ne trouvait agréable que si l'on était peu physionomiste. « Merci, merci, je ne suis pas pressée, » répondit Myriel. « Si c'est pour téléphoner que vous venez, » poursuivit Madame Denizet, « veuillez passer au fond du magasin. » Myriel tourna la tête, son cœur battit et lui envoya un flot de sang aux joues. « Et puis ?» « Excusez-moi si je vous le rappelle, mais vous me devez encore 40 centimes pour votre dernier téléphone !» prononça Madame Denizet d'une voix toute unie et sans lever les yeux du plat ovale qu'elle tournait entre ses mains. « Je ne me souviens pas, c'est bien possible. Je réglerai cela avec ma petite emplette d'aujourd'hui !» répondit Myriel, reprenant pied de phrase en phrase. Un émoi extraordinaire, qui n'était pas de la crainte, mais plutôt une audace folle, une ivresse de danger et de drame, la jetait vers un risque inouï. « Mais, au fait, » dit-elle, « non, je n'ai pas eu de communication téléphonique. Je ne sais trop ce que vous voulez dire. Nous avons le téléphone à la maison. » Et elle regardait Madame Denizet d'un air méditatif, la tête un peu de côté. La marchande qui, par une inspiration soudaine et méchante, avait lancé sa petite réclamation comme on lance une mouche au bout de sa ligne, en espérant voir le poisson bientôt s'accrocher et s'agiter éperdument, trouvait maintenant sa proie plus grosse et plus combative qui ne lui convenait. « Il se peut que je me trompe, » dit-elle avec quelque froideur. « Vous vous trompez assurément, mais qu'est-ce qui vous fait croire que je vous dois un téléphone ? Est-ce que... continua-t-elle, jetant au vent les derniers atomes de prudence, est-ce que, par hasard, quelqu'un aurait téléphoné sous mon nom, comme une autre personne a téléphoné sous le nom de M. Laurent, à ce qu'on raconte? Alors, ça deviendrait une habitude chez vous? Mademoiselle Myriel, prenez garde à ce que vous dites, s'écria Mme Denisé suffoquée. Oh, je ne dis pas que ce soit vous, Dieu m'en garde, mais si j'ai bien compris, vous me réclamez une petite somme que je paierai naturellement si je la dois. N'en parlons plus. Comment donc? Il faut éclaircir la chose. Non, ne l'éclaircissons pas, fit Mme Denisé, dont la poitrine se soulevait par saccades sous le corsage gris un peu trop sanglé. Nous l'éclaircirons, madame, déclara Myriel, plantée droite et crâne, les deux mains dans les poches de sa jaquette tricotée, le menton en l'air et le petit bonnet planté derrière sa tête, avec sa bordure ronde, épaisse, blanche et moelleuse, lui donnant à la fois l'air très gamine et très virginale. Vos insinuations sont intolérables. Quelle gaffe j'ai faite, moi qui ne voulais que lui donner un peu la frousse, songea Mme Denisé éperdue. Nous allons perdre la clientèle des Champieux et peut-être celle du château si la chose s'ébruite. François Denisé choisissait des clous avec Niquet, le menuisier. Il était debout dans un des couloirs, tout près du cintre ouvert qui donnait sur le magasin. Il remarqua que son client prêtait l'oreille. « C'est toujours ces histoires de téléphone, » fit Niquet intéressé. « Oh, ça n'a pas d'importance, » répondit François, qui cherchait à écouter tout en parlant lui-même, dédoublement fort difficile. « Restez, monsieur Mestru, je vous prie, » disait Myriel d'une voix haute et claire. « Je ne suis pas fâchée d'avoir un témoin. »« Et moi, je n'ai pas la moindre envie de l'être, témoin, » fit Laurent. « Je me trouve déjà indiscret d'avoir entendu ce que j'ai entendu. » Son ton était poli mais ennuyé. « Du moment où Mme Denisé insinue que je lui dois une taxe de téléphone, c'est que j'ai téléphoné, » persista Myriel, qui sentait sa position se raffermir de minute en minute. « Alors, je demande quand j'ai téléphoné d'ici et pourquoi je l'ai fait, puisque nous avons le téléphone à la maison. Ai-je le droit de demander cela ou non ?» ajouta-t-elle, s'adressant directement à Laurent. « Vous en avez le droit, certainement, » répondit-il, intéressé malgré lui. « Du reste, cela vous concerne aussi, » dit Myriel, se jetant cette fois en plein dans la toile qu'elle avait tissée. « Je ne saurais faire semblant de ne pas vous comprendre, » dit Laurent, dont les yeux graves, un peu sévères, contemplaient l'évident désarroi de Mme Denisé. Sa haute taille dominait les deux femmes et il inclinait un peu la tête pour les considérer tour à tour. « À votre place, reprit-il, je ne dirai plus rien. Vous vous avancerez tellement que vous ne pourrez plus reculer. »« Mais c'est fait !» cria Myriel. « Madame Denisé doit retirer son accusation. » « Je ne vous ai accusé de rien du tout, mademoiselle Myriel. J'ai fait une petite erreur, vous y mettez du mal qui n'y est pas. » « Très bien, dit Myriel, c'était donc une erreur. J'en prends note. Je prie Monsieur Laurent d'en prendre note également. » « C'est bien la première fois que j'entends une querelle dans votre magasin, » disait Niquet d'un ton bon enfant. « Madame Denisé, qui est toujours si honnête. » « Un petit malentendu, je crois, » murmura François gêné, furieux. « Les dames sont parfois un peu vives, vous savez. » La furie de bravade qui électrisait Myriel la porta jusqu'au bout. À peine consciente de jouer un rôle de mensonge, elle incarnait l'innocence, la dignité, l'indignation tour à tour. Elle voyait, avec des yeux grandis par l'horreur, l'odieuse perfidie de Mme Denisé, qu'elle repoussait avec des gestes simples et des mots naturels. Et, avant de sortir, elle dit encore à Laurent « Il y a bien de la méchanceté dans un petit village !»« Il y a bien des braves gens aussi, » répondit-il, « et chacun reçoit son dû pour finir. » François avait fini d'assortir des clous, il parut sous le cintre avec Niquet. Il jeta à sa mère un regard qui signifiait « Je tiens le manche ». Et, de fait, Mme Denisé perdit le gouvernement dès ce jour. Bien que le château fût à l'écart du village, les échos des rumeurs flottantes lui parvenaient cependant. Le facteur apportait un mot, le jardinier un autre mot, et Louise Duplan, qui blanchissait pour Madame Clotilde et qui envoyait sa fillette ou son petit garçon pour les messages, maintenait en bon fonctionnement le fil aux nouvelles. La douairière ne dédaignait pas de causer avec cette bavarde journalière qui, indiscrète, exagérée, potinière, n'était cependant ni méchante ni sotte. Tout de suite après le court entretien qu'elle avait eu avec le père et le fils au pied de la terrasse, Rosanne s'était hâtée de remonter chez Madame Champieux et de disculper Laurent avec quelque véhémence. « Si ce n'est pas lui, qui est-ce alors ?» fit la vieille dame plaintivement, regardant tour à tour le notaire calme et correct et la jeune fille un peu rouge, un peu excitée, dont les yeux gris brillaient d'indignation. « On le saura, » dit Rosanne. « Je suis donc entourée de malveillance, et que faudra-t-il que j'apprenne encore? Qui est-ce qui trouve un plaisir cruel à me brouiller avec des voisins, à m'enlever le peu d'appui qui me reste dans le village? Je n'ose plus compter sur personne. » « mais si, » fit le notaire, posant sa main fine et soignée sur une pauvre vieille main qui s'agitait, cherchant le mouchoir. « Vous pouvez compter sur une quantité de personnes. Sur moi d'abord, ensuite sur Mademoiselle Dupommier et sur sa mère, et puis sur ce jeune voisin, je suppose. Toute réserve faite, naturellement. Et votre beau-fils, malgré tout, n'est pas un méchant homme, un peu nonchalant. Je le secourrai si vous m'y autorisez. » « Je ne demande aux gens que de me laisser finir mes jours dans la maison que mon mari m'a donnée. Je leur demande de ne pas me tirer par les pieds avant ma mort, » sanglota Madame Clotilde. « Si vous imaginez que je ne vois pas où tendent toutes ces menées, on veut que j'abandonne le château Sébastien. Tout le village est contre moi, jusqu'à Madame Dupommier que je croyais fidèle. Elle invente une histoire de réparation. » Pour m'affoler, tout simplement, pour m'affoler. On tape à mes volets, on surveille mes départs, mes retours. Si on le pouvait, on ferait dérailler le train qui me ramène. « Madame Champieux !» fit le notaire d'un ton de réprobation. Ce fut alors contre lui que la pauvre femme tourna sa lamentable colère. « Et vous ? » gémit-elle, la figure à demi cachée dans son petit mouchoir bordé de valenciennes. « Et vous ? Pourquoi êtes-vous venu me dire que ce jeune voisin, sur qui je comptais un peu, se moque de moi et de ma maison par téléphone? Puisque ce n'est pas lui, au moins à ce que Rosanne assure. Mais puis-je me fier à Rosanne plus qu'aux autres ?» Rosanne s'était agenouillée devant la vieille dame, lui tenait une main entre les siennes, lui parlait doucement, sans argumenter, avec ces mots tendres qui ont plus d'expression que de sens et qui rassurent le cœur plus que la raison. « Calmez-vous, chère Madame Clotilde, vous allez vous faire du mal, beaucoup de mal, en pleurant ainsi. Il ne faut pas croire tout cela. Mais non, vous savez bien qu'on vous aime, et les méchants, vous verrez. » Ce n'est rien, ce sont des inventions. Nous allons causer bien tranquillement avec Monsieur Marquis, lui demander un bon conseil. Cette fillette me protège positivement, se dit le notaire avec quelque stupéfaction. Laurent Mestru est un garçon loyal, croyez-le. Vous pouvez croire cela, n'est-ce pas, Madame Clotilde? Pour vous, c'est l'essentiel, hein? Fit Monsieur Marquis un peu brusquement. « Oui, c'est l'essentiel de toute manière. Cela remet tout en place, » répondit Rosanne sans hésiter. « Il est incapable d'avoir trahi madame par derrière, comme vous l'avez raconté. Non, il n'a pas fait cette vilaine chose. Eh bien alors, oh, on peut compter sur lui, et c'est tout ce qu'il nous faut. » Elle releva la tête d'un geste vif et regarda le notaire bien en face. Elle lui en voulait, et elle n'était pas prête de lui pardonner, d'avoir jeté une ombre sur l'honneur de Laurent. On ne saurait mieux comparer le village de Fontfraîche et sa situation pendant les semaines qui suivirent qu'à un jeu de joncher longtemps étalé sur une table sans qu'on y touche. Les minuscules objets enchevêtrés sont soudain dérangés par le petit crochet qui en soulève un seul. Et toute la masse bouge, se déplace et son inextricable entrecroisement apparaît. Ainsi, de même, le harpon envieux de Madame Sébastien, plongé dans la direction de la mal tournée, et l'on voyait alors Myriel se soulever, se remuer, et la cure et les Denisés s'accrochaient à elle, et la maison Mestru suivait le branle, et Fanélie était dérangée, et Louise Duplain surgissait. Les jonchés de dessous apparaissaient, des combinaisons nouvelles se dessinaient. Et la dépendance où sont l'une de l'autre les existences se manifestait dans ce jeu de village plus clairement qu'à la ville où les jonchés sont trop nombreux. Si Madame Sébastien n'avait pas âprement convoité le château et mis en mouvement de méchantes influences, le besoin d'une protection virile se fût moins fait sentir à trois femmes isolées. Le pasteur, qui, le premier, avait révélé à Élie Mestru le penchant de son fils pour Rosanne, n'aurait probablement pas touché à ce joncher, lequel était trop enchevêtré avec la déchéance de la maison Mestru pour remuer sans que tout l'ensemble des habitudes, des manies, sans que la conscience Mestru remuât aussi. Peut-être l'agression de Madame Sébastien contre le château ne se produisant pas, Laurent serait-il resté longtemps encore, hésitant devant l'initiative, retenu par sa pitié, son respect, son affection filiale. Et le gendarme intempestif, qui est, semble-t-il, un joncher peu lié avec le jeu, n'aurait eu qu'une faible prise sur la destinée des Mestru, si l'inertie du vieux paysan n'avait déjà été secouée par des assauts intérieurs et extérieurs. La courte conversation avec Rosanne, au pied de la terrasse, cette révélation d'une âme de jeune fille déjà protectrice et maternelle, en même temps que d'un esprit net et d'une volonté franche, avait dégagé presque entièrement le joncher essentiel des dernières griffes d'incertitude. Et c'était le geste de Myriel au téléphone, si l'on voulait remonter de l'effet à la cause première, qui avait déclenché la libération, ô ironie de la logique des choses. Ainsi, tout se tenait. Le harpon de Madame Sébastien traînait autour du jeu une chaîne toujours amincie, mais qui ne se brisait point, de conséquences et de mobiles cramponnés les uns aux autres. De même, la petite manœuvre d'abandon à propos des réparations du toit, au lieu de dégoûter Madame Champieu de sa maison, avait amené Laurent Mestru au premier plan et précipité Myriel dans des contre-manœuvres aussi dangereuses que coupables qui mettaient hors de son atteinte ce qu'elle souhaitait le plus. Pauvre adresse que celle de ces deux femmes qui, un bandeau sur les yeux, se heurtaient et se blessaient l'une l'autre, brouillaient leur jeu mutuel et s'en allaient avec peine, avec empressement, avec effort, vers un néant complet. Le dimanche, Rosanne rentra du service religieux avec une grande nouvelle. Élie Mestru était à l'église avec son fils. Vêtu, non de la lévite noire qu'on lui voyait une fois par année, mais d'un costume neuf en drap brun, tel que l'aiment les paysans cossus. Son chapeau était neuf aussi, Élie était rasé et rajeuni. Il avait causé un moment sous le porche, à la sortie, avec le président du conseil communal. Tout le village était témoin du miracle. Sa folie n'était donc pas incurable, dit Madame Dupommier, quand, après plusieurs répétitions, elle eut saisi le récit dans son ensemble. Mais que de temps perdu, ajouta-t-elle avec amertume et tristesse, comme si elle eût parlé d'un de ses proches qui lui eût fait beaucoup de chagrin. L'après-midi, comme elles étaient assises côte à côte sur le canapé vert, tenant chacune un livre du dimanche, Madame Dupommier dit tout à coup « La vie a plus de sens qu'on ne croit. J'aurais voulu, moi, dans le temps, Rosanne, sauver Élie Mestru. Mais j'étais un peu trop son aînée, et puis, après Laurence, le monde était fini pour lui. Tu ne sais pas ce que j'ai souffert en le voyant se dégrader aux yeux des gens. Et c'est toi, ma fille, c'est toi qui fais le miracle. Je t'ai mise au monde dans la douleur, je te donne à présent pour sauver celui que j'ai aimé plus que ton père. »